l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Lannemezan, 92.2.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur les fréquences de Radio Présence. C'est l'heure du Présence Midi, nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec au sommaire de cette émission dans quelques instants la chronique verte de Benoît Guillard. Il nous proposera de partir à Ibos, une commune à côté de Tarbes, sur le thème « Le bio est-il viable ?» financièrement pour les agriculteurs qui s'y mettent. Eh bien, nous aurons l'avis de Yves Cassanier, qui est éleveur dans cette commune. Nous parlerons littérature, bien sûr, avec le coup de cœur en librairie, comme tous les vendredis. Aujourd'hui, c'est Nicolas Dargegène qui nous fera découvrir un livre du père Charles Bonin sur la fin des temps. Nous aurons évidemment les informations de ce jour et puis la chronique solidaire de Anne Deloye qui aura deux invités à son micro. Ils nous parleront des équipes Saint-Vincent. Et enfin, l'auteur qui mettra à l'honneur nos belles Pyrénées cette semaine, ce sera Joseph Perret. Il nous sera présenté par Catherine Albrecht. Voilà le sommaire de cette émission que je vous propose de débuter immédiatement avec les titres des informations de ce vendredi.
Depuis le 18 février, les trains ne circulent plus sur la ligne SNCF entre Foix et Ax-les-Thermes en Ariège, suite à un affaissement jugé plus important que prévu par SNCF Réseau. Le réseau ferré subit de nouvelles perturbations qui pourraient bien couper pendant plusieurs mois la ligne. Pensez à bien anticiper vos trajets si vous souhaitez vous rendre dans les Pyrénées ou en Andorre. Dans les prochaines semaines, cette interruption intervient en même temps que les travaux sur la RN20. L'installation de la fibre se poursuit dans le Gers avec une augmentation de 1200 abonnements chaque mois. Hormis à proximité d'Aubier, la totalité du réseau est désormais achevée dans le département. Gers Fibre est chargée de l'exploitation et de la maintenance du réseau et se doit par exemple de rétablir 90% du réseau fibre en moins de 10 jours en cas de panne. Du 7 au 14 mars, la clinique Saint-Exupéry et l'association de patients France-Rhin-Occitanie Midi-Pyrénées organisent une campagne de dépistage gratuit des maladies rénales à Toulouse. Le rendez-vous est donné place Saint-Georges de 10 à 19h à l'occasion de la 10e édition du dispositif lors de la Semaine du Rhin. Le dépistage est une démarche simple et sans rendez-vous. Un questionnaire, un test urinaire, une prise de tension et un échange avec les soignants. Et le tour est joué en à peine 15 minutes. Après une semaine ensoleillée, c'est une tempête de sable qui va survoler la Haute-Garonne jusqu'à ce soir. Ce phénomène a apporté des températures particulièrement douces pour une fin février, mais aussi des poussières venues du Sahara. Conséquence, le ciel pourrait prendre une teinte voilée, parfois légèrement jaunâtre, à Toulouse et plus largement en Occitanie dans la soirée.
Retour de l'information aux alentours de 12h30 pour un point complet sur l'actualité.
Radio Présence à Gourdon, 104.8.
Et première chronique de cette émission ce vendredi, bien voici la chronique verte de Benoît Guillard. Il nous amène du côté de Ibos, à côté de Tarbes, c'est dans les Hautes-Pyrénées.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous retrouvons pour notre chronique hebdomadaire la chronique verte avec Benoît Guillard. Et aujourd'hui, je vous propose de rencontrer un agriculteur qui habite à Ibos, une commune à la périphérie de Tarbes, à l'ouest de Tarbes. Yves Cassanier, qui est éleveur à la base et qui a eu un projet au départ de transformer son exploitation petit à petit pour aller vers le bio et vers la vente locale. Voilà. Bon, il nous en dira plus. Donc bonjour Yves, alors on se tutoie une nouvelle fois parce qu'on se connaît depuis bien longtemps. Je te laisse tout simplement te présenter.
Bonjour Benoît, bon, bonjour à tous. Je me présente donc, je suis Yves Cassanier, je suis agriculteur à Ibos. Je suis installé depuis 1987, c'est une succession de mon père. Donc je suis la quatrième génération d'agriculteurs et mon fils vient de me rejoindre depuis 2023, lui aussi, donc ça sera la cinquième génération. On faisait partie des exploitations, on va dire, classiques sur le département, avec une partie culture, blé, colza, maïs, et un élevage à côté. Il se trouve que chez nous, l'élevage, c'était un élevage de porc qui avait été démarré par mes parents. Et à mon installation en 1984, on est parti sur l'élevage de porc classique avec un élevage naisseur-engraisseur qui petit à petit s'est développé pour arriver à 120 truies naisseurs-engraisseurs pour une partie. Culture en conventionnel, voilà. Pendant toutes ces années, on a connu, notamment dans le port, des crises successives. La solution miracle, c'était de toujours augmenter. Et j'ai vu que moi, ça ne me convenait pas. Quand je suis arrivé à Saint-Ventruy, c'était où je doublais ou triplais. Déjà, mes parents avaient arrêté. Il fallait donc que je trouve un associé. Et franchement, c'est quelque chose qui je m'en sentais pas capable. De partir dans cette industrialisation, on va dire, de l'élevage de porc.
Donc c'était l'arrêt de l'activité porcine ?
Alors ça n'a pas été l'arrêt de l'activité porcine, j'ai arrêté le naissage en 95 et je rentrais les porcelets à 4 semaines, toutes les 6 semaines, et je faisais tourner mon élevage comme ça, je faisais qu'en fait les faire manger et les envoyer à l'abattoir.
Donc après le porc, réflexion en route pour changer un petit peu cet univers. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça ?
Alors, la réflexion s'est posée en 2003-2004. J'ai eu un contact avec Sophie Villard, qui était la directrice de la COP des Gaves, un outil de transformation qui s'est monté à Lourdes en 2000 et qui cherchait des agriculteurs pour développer la coopérative. J'ai adhéré et j'ai commencé donc en 2005 à transformer des porcs que l'on vendait sous forme de colis à des clients locaux, des connaissances plus ou moins proches. J'ai développé ça jusqu'en 2010. À partir de 2010, j'ai commencé un peu à travailler avec des supermarchés. Jusqu'en 2012-2013. Mais toujours pareil, j'étais seul pour travailler, donc à un moment donné on a nos limites aussi, donc j'ai continué à bricoler un peu avec eux. 2013, il y a eu l'expérience La Ferme en direct à Lourdes, où j'ai été l'un des artisans avec Guy Sayous, qui était sur Lourdes pour la création de ce magasin. Et en 2015, j'ai basculé en bio. Alors pourquoi le bio ? Tout simplement, ça faisait déjà quelques années que je l'avais ça en tête. J'avais une façon de travailler qui faisait que je faisais des couverts végétaux, j'étais dans la réduction des phytos, j'étais aussi dans la réduction de l'azote, etc. C'était quelque chose qui m'intéressait. Et le bio, je trouve, allait bien dans la démarche de ce que je recherchais. Donc en 2015, j'ai sauté le pas, j'ai basculé mon exploitation en bio complètement et j'ai arrêté l'élevage de porc pour monter un petit élevage d'une dizaine de truies, naisseurs-engraisseurs, et tous mes produits sont vendus en direct, soit à travers des clients, soit maintenant depuis 2020, sur une boucherie que l'on a montée avec deux associés sous les halles de Bagnères.
Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que tu es allé jusqu'au bout de la démarche et de la filière, puisqu'aujourd'hui, effectivement, vous n'avez pas hésité à reprendre une boucherie et à prendre à votre compte un projet de boucher. Tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, bien sûr. Cette boucherie donc appartient à la ville de Bagnères. C'est un emplacement sous les halles de Bagnères. Qui existe depuis très 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 longtemps. Nous avons repris ça après l'arrêt de nos prédécesseurs. Mais nous, notre idée, c'était de faire une boucherie donc que de produits bio et la plus locale possible. Donc il se trouve que bon, nous on avait du veau, du bœuf et des porcs, mais il nous manquait les volailles, il nous manquait les agneaux. Les agneaux, on les a trouvés à Saint-Martin, à la Basserre, à côté de Sarancolin. Voilà, on a trois producteurs. Et en fait, notre producteur le plus éloigné, c'est notre producteur de volailles qui est à Mirande. Donc l'idée c'était de travailler en local déjà pour amener du travail localement. Dans notre boucherie, on a embauché un boucher, on a deux personnes qui travaillent, un boucher et une aide bouchère. Les abattages bon, se font sur l'abattoir de Bagnères ou de l'abattoir de Tarbes pour les porcs. Et bien entendu, la clientèle, bon, elle est locale, mais elle est aussi très touristique, puisque sur Bagnères, on a énormément de passages. Et ça permet aussi d'expliquer notre façon de travailler, sur quels produits on travaille, comment on les travaille. Parce qu'il y a beaucoup d'idées préconçues dans la tête des gens. Et quand on est en face d'eux, voilà, je vais vous donner l'exemple, moi je suis pas boucher, mais le samedi, comme c'est jour de marché à Bagnères, il y a énormément de monde, donc j'y vais tous les samedis pour aider les bouchers. J'ai appris à trancher, etc., et à servir. Et en servant, c'est vrai que les gens sont très contents quand on leur dit que je connais le producteur. Et là, ça enclenche souvent une discussion, et on se rend compte qu'ils sont souvent à côté de la plaque, quoi, de ce qu'on raconte sur les médias et de la réalité de notre travail, de comment on arrive à faire du porc ou du veau ou du bœuf. Quand on entend maintenant qu'à travers la méthanisation, les vaches polluent, enfin je suis désolé, mais les vaches dans nos coteaux là, si on met pas des vaches, j'entends des gens qui disent mais il y a qu'à faire de la protéine végétale. Vous pouvez pas faire de la protéine végétale quand vous êtes dans les coteaux ou dans des terres arides, des terres sèches, etc. Donc voilà, c'est tout un amalgame qui est fait et qui nous permet à nous de rectifier. Après, il y a un autre problème sur le bio maintenant que l'on voit depuis un an et demi, notamment depuis la crise ukrainienne, on va dire. Le bio, vous entendez, vous allumez la radio, vous entendez le bio c'est cher. Voilà, on n'entend que ça. Alors que dans la réalité, nous, quand on compare nos prix, je ne veux pas vous dire qu'on est premier prix parce que ce n'est pas vrai. Par contre, en termes de prix, très souvent, on a beaucoup de boucheries conventionnelles qui sont aussi chères que nous, voire plus chères que nous.
Oui, donc en fait, tout ce qu'on entend sur le bio là depuis quelques mois, en fait, c'est quand même des choses qu'on entend dans les grandes villes. Mais la réalité, quand on est sur le terrain, en circuit court, elle est tout autre. On peut la vivre tout autrement, en tout cas.
Tout à fait. Après, depuis quelques années, on entendait il faut faire du bio pas cher. Ça, c'était le message de l'État. Principalement, il fallait amener des produits haut de gamme pas cher. À un moment donné, le bio, c'est pas possible que ça soit pas cher. Bien sûr qu'on peut mécaniser une partie, en partie céréalière. Enfin, quand vous avez du datura qui pousse, vous allez l'arracher à la main. Oui. Vous passez pas avec un pulvé et du phyto. Donc, c'est un boulot supplémentaire. Donc, on passe du temps supplémentaire. Mes porcs, ils sont pas faits en 5 ou 6 mois. Les cochons que l'on va, ils ont 9 mois. Donc ils ont grossi tranquillement, on a pris le temps de les laisser manger tranquillement, ils ont de quoi circuler, et en termes de qualité de viande, on tombe sur une autre qualité de viande, et on peut expliquer aux gens aussi, plutôt que de manger 200 grammes de viande qui sort d'un bâtiment industriel, on peut en manger 120 ou 130 d'une bonne viande, qui elle, en termes, quand elle aura cuite, elle n'aura pas fondu, contrairement aux autres, où on retrouve de l'eau. Voilà. C'est très souvent le retour que j'ai des gens qui me disent, quand on met le rôti, on sort le rôti comme il était. Eh oui, tout simplement parce qu'il n'a pas d'eau. Et il a pris le temps de grossir.
Voilà. Alors Yves, aujourd'hui, bien sûr, on parle beaucoup de cette crise agricole, de ce malaise paysan, et on voit que quand même des agriculteurs comme toi, des éleveurs comme toi, ensemble, vous avez quand même pu mettre en place des projets. C'est quoi la clé de la réussite là-dessus?
La clé de cette réussite, déjà, c'est de croire à ce que l'on fait. Si on a fait ce choix, le choix du bio, moi je l'ai fait aussi par rapport à un antécédent familial, on va dire. J'ai mon père qui est mort suite à des problèmes respiratoires très 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 prononcés qui ont duré des années. Et c'est quelque chose qui m'a marqué parce que c'est quelqu'un qui, à l'époque des désherbants, il regardait pas. Alors bien sûr, il fumait en préparant la potion magique. Il avait souvent la cigarette à la bouche, mais ils étaient tous comme ça. Et je me suis rendu compte des dégâts que ça pouvait faire. Alors on va vous dire, maintenant on se protège. Malgré tout, en regardant un peu, je trouve que dans nos campagnes, on a beaucoup de gens qui ont des problèmes de cancer, etc., de leucémie. Je trouve que c'est quand même assez fréquent qu'on entende ça. Et donc, il y a ce côté-là aussi, ce côté santé. Je me disais qu'en fait, si on mange bien, si on se nourrit bien, on évite les médicaments. Alors bon, j'ai la chance, moi, le médecin, je le vois très rarement. Peut-être parce que je me nourris bien, que je fais un petit peu attention. Après, il y a tout le côté environnemental. Écoutez, quand on ne fait pas venir des engrais d'Ukraine ou de Russie ou d'ailleurs, si on fait avec du fumier local, bien sûr, on va en faire moins. Mais au niveau de l'empreinte carbone, etc. Si on vend localement, c'est des produits qui ne vont pas être transportés. Enfin, c'est toute cette démarche que l'on doit arriver à entendre. Et il faut aussi que les acheteurs l'entendent. Parce que les acheteurs, le fait d'acheter local, ça favorise aussi le travail local. Voilà, la coopérative dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, il se trouve que depuis 2015, j'en suis le président, c'est une coopérative donc, qui a une vingtaine d'employés, qui a démarré avec 3 employés en 2000 et qui maintenant a une vingtaine d'employés, qui traite 550 tonnes de viande, grosso modo, ça va de la volaille au porc, au veau, etc., qui fait des produits transformés, et qui, ça, c'est 20 emplois qui sont locaux, sur Lourdes. Je suis pas sûr que Lourdes ait beaucoup d'entreprises qui étaient capables d'embaucher et de développer sur une vingtaine d'employés. Donc c'est tout ça qui nous fait, qui fait que l'on avance. Puis après j'ai un fils qui arrive derrière aussi, qui s'est installé avec moi et qui est aussi dans cette démarche-là, qui lui veut même aller plus loin pour travailler, mais pas que sur la viande, même sur les céréales, travailler en direct avec des éleveurs qui ont besoin de céréales pour faire du yaourt, pour faire des fromages, etc. Et avoir un lien direct, sans intermédiaire, qu'on puisse travailler le plus en plus en lien direct. On le fait déjà à travers avec de la paille, avec du foin, avec un peu de céréales, mais d'arriver peut-être à le faire de façon plus simple pour tout le monde.
Donc on voit bien que justement au travers de ton témoignage, Yves, la famille Castagnier, elle est dans la joie là, hein, et dans l'espérance puisqu'il y a de la suite et il y a encore des projets.
La joie, j'en sais rien. Enfin, toujours est-il que le boulot que l'on fait, on le fait avec plaisir. Je ne vous cache pas que les situations sont difficiles parce qu'on vient de passer quand même une année 2022 avec une sécheresse que l'on a rarement vue. Un hiver 2023 très sec avec des récoltes de céréales de très mauvaise qualité. Je ne vais pas dire que le métier d'agriculteur est facile, c'est pas du tout le cas. Que ça soit en conventionnel ou en bio, parce que je ne veux pas opposer les deux. Moi, on a fait un choix. Et je trouve qu'actuellement, on est en train de dézinguer le bio. Et je trouve que c'est quand même catastrophique parce qu'on a mis du temps à mettre ça en place. Il y a des exploitations qui tournent très bien en bio, en vente directe et qui s'en sortent très très bien. Et je veux pas qu'on les oppose.
Alors peut-être pour terminer, Yves, deux idées. D'abord, une première, c'est par rapport aux jeunes justement, aux jeunes qui hésitent encore à venir dans ce monde agricole. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces jeunes ?
Je vais pas leur dire que ça sera facile parce que c'est pas le cas. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de trouver son projet, de trouver ce qui intéresse à travailler. Pas se lancer dans une exploitation céréalière si on n'est pas très intéressé par ça. Pareil, la partie vente aussi est une partie qui demande énormément de temps. Et pour avoir participé à une formation sur des jeunes qui allaient s'installer, quand je suis arrivé, j'ai demandé aux 17 ou 18 jeunes qui étaient là, jeunes et moins jeunes, d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Et c'est surprenant, certains, ils se rendent pas compte du temps que ça va prendre. Un exemple tout bête, un gars qui voulait faire du maraîchage et avoir aussi une pension pour les chevaux. Le jeudi matin, ils vont au marché. Je lui dis, comment tu fais le jeudi matin si tu as un cheval malade? Tu vas pas au marché. Donc voilà, c'est très chronophage. Surtout, on en voit beaucoup qui s'installent dans le maraîchage. Le maraîchage est quelque chose de très chronophage. Donc arriver peut-être à faire des expériences en tant qu'employé ou associé. Il y a des moyens maintenant d'aller dans des exploitations pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Bien, bien réfléchir en amont. Mais de ce que je vois qui arrive, il y en a qui ont bien réfléchi leur projet. Et des fois, au bout de 15 ans, d'autres expériences complètement différentes. Et ça fait du bien d'avoir ces gens-là qui arrivent parce qu'ils ont une autre vision de l'agriculture que nous, on a pu avoir à travers nos études, qui était quand même quelque part un petit peu conditionnée, et le monde dans lequel on vit. Moi, je me régale sur le marché de Bagnères où on a des gens d'horizons complètement divers et qui sont contents de ce qu'ils font. Parce qu'on demande, c'est pas toujours, on demande pas être milliardaire, on demande simplement à vivre de notre boulot. Mais je crois que oui, il faut y croire parce que les gens auront toujours besoin de manger.
Voilà, c'est un beau message d'espérance en tout cas. Yves, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Les gens qui passent par Bagnères, je vous encourage à aller à la boucherie justement, au marché, hein, tout à fait. Vous rencontrerez sans doute Yves. à l'instant bio sous la halle. Merci encore Yves et puis à très vite.
Merci. C'était
un peu... Et voilà pour ce bon message d'espoir. La nourriture, elle est bonne ici dans les Hautes-Pyrénées. Profitons-en. Dans quelques instants, le coup de cœur en librairie avec Nicolas Dargegen. Juste après Jacques Dutronc, le petit jardin.
Avec deux arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur. De grâce, réservez cette grâce. De grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin, avec un homme qui faisait son jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur. De grâce, préservez cette grâce. De grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien, à la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain, où sont rangés comme des parpaings les automobiles du centre urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée.
Et Jacques Dutronc sur Présence, le petit jardin.
Radio Présence à Figeac 97.7.
Et Nicolas Dargegen nous propose son coup de cœur en librairie de cette semaine.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le livre « Faut-il se préparer à la fin des temps ?» écrit par le père Charles Bonin, prêtre du diocèse de Grenoble et curé de paroisse, et paru aux éditions Artege en 2025. On peut constater une chose. Ce début du XXIe siècle est plutôt anxiogène. Des conflits, des incertitudes économiques, des crises écologiques, une église fragilisée qui s'interroge sur son avenir. De là fleurissent de nombreux discours eschatologiques, c'est-à-dire des discours sur la fin des temps. L'eschatologie, comme l'écrit le père Bonin dans l'introduction de son livre, c'est, à partir de l'écriture, l'étude de ce qui vient, une anticipation de ce vers quoi on chemine, en retenant les leçons du passé pour mieux se situer dans l'actualité présente. C'est une mise en lumière de la parole de Dieu en ce qui concerne l'horizon de l'histoire humaine. C'est une recherche pour répondre aux questions existentielles fondamentales. Vers où allons-nous? Comment y allons-nous? Pourquoi le mal entrave-t-il notre marche vers le bonheur et le souverain bien promis ? Le père Bonin interroge tout d'abord l'Écriture. Comment la parole de Dieu peut nous rejoindre dans un monde troublé ? Comment cette parole peut nous conduire à une espérance ? C'est justement là le sous-titre du livre, « Espérer à la lumière de l'Évangile ». Car les questions face à ce monde troublé, face au bouleversement actuel, réveillent en nous la prise de conscience que nous nous approchons de la fin, et donc une peur de l'inconnu apparaît. La parole de Dieu nous offre des repères clairs, elle est une lumière dans l'obscurité. Le père Bonin nous aide à comprendre comment la parole de Dieu aborde le mystère du mal pour nous conduire à une plus grande espérance. On ne peut pas s'interroger sur le sens de la vie si on ne réfléchit pas à sa finalité. Pour les catholiques, la finalité renvoie à la parousie, c'est-à-dire au retour du Christ. Le père Bonin l'explique, « La fin de notre vie n'est pas seulement un terme, c'est une orientation, un sens. Le mot fin d'ailleurs a deux significations, la cessation et la finalité. Nous sommes appelés au royaume et nous devons avancer vers ce royaume avec confiance. » Le père Bonin reconnaît également que l'Église, qui a souvent parlé de la fin des temps en usant de la peur, est plutôt silencieuse aujourd'hui sur ce sujet. Cette ancienne pastorale de la peur, en quelque sorte, a fait place à un silence. Alors que l'Apocalypse, par exemple, n'a pas été écrite pour effrayer les croyants. Au contraire, l'Apocalypse est porteuse d'espérance en temps de crise. L'Apocalypse n'est ni un récit symbolique ancien, ni une prédiction littérale du déroulé des événements à venir. La vérité est entre ces deux visions. La parole de Dieu me parle aujourd'hui dans tout ce que je vis et m'éclaire, m'oriente et m'offre une espérance. Car on ne peut pas parler de la fin sans revenir au Christ qui est la véritable source d'espérance, le seul guide. C'est cela la parousie, l'avènement glorieux du Christ, et ceux qui auront marché à sa suite participeront à ce retour glorieux. Voilà la grande espérance, celle qui nous permet de combattre le mal, des combats habités par l'espérance. Dans l'Apocalypse, on peut lire une cohérence dans les événements. Des bouleversements politiques, cosmiques, économiques sont décrits. Le père Bonin, justement, nous invite à lire les signes du temps. Crise écologique, instabilité mondiale, perte de repères spirituels, des signes qui ne sont pas nouveaux. Bien entendu, le père Bonin ne nous donne pas la date exacte de la fin. Si c'est cette réponse que vous cherchez en lisant ce livre, alors vous serez déçus. Le père Bonin nous le rappelle, lorsque les disciples posaient la question à Jésus, il leur proposait des signes. Non pas pour prédire une date, mais pour éveiller les consciences. Des signes qui aujourd'hui doivent nous inviter à une triple posture, celle du veilleur, du prophète et du martyr. Le père Bonin mentionne 6 éléments marquants qui marqueront les temps de la fin. L'effondrement religieux, l'imposture spirituelle, les troubles politiques, les catastrophes naturelles, la persécution des croyants et enfin la parousie. Ces éléments ne sont pas chronologiques, ce ne sont pas des cases à cocher, ce sont des signes entremêlés. L'imposture spirituelle aujourd'hui, ce serait ce que le père Bonin évoque, une trinité abominable, c'est-à-dire une trinité contrefaite qui s'oppose subtilement à celle de Dieu. Cette trinité est idéalisme, perfectionnisme et volontarisme. L'idéalisme qui place l'idée au-dessus du réel s'attaque à la figure du Père. Le perfectionnisme qui nie la miséricorde contredit le Fils. Le volontarisme qui prétend tout obtenir par l'effort refuse l'Esprit. Ces déviances sapent l'image de Dieu en l'homme. Et c'est cela l'imposture, le mal déguisé en bien. Les troubles politiques, il y en a toujours eu, mais on assiste aujourd'hui à une certaine globalisation. Alors en effet, il faut se préparer à la fin des temps. Nous sommes en route vers une fin. La préparation consiste à discerner le mal à l'œuvre, à résister au mal et à accueillir la lumière de Dieu. Et cela avec une grande espérance, puisque nous nous approchons du royaume du Christ. Voilà pourquoi cet ouvrage est passionnant et à lire d'urgence puisque nous sommes encore dans l'élan du jubilé de l'espérance. Nous sommes tous des pèlerins d'espérance en route vers la fin des temps et donc vers l'avènement glorieux du Christ. Faut-il se préparer à la fin des temps et espérer à la lumière de l'Évangile par le père Charles Bonin, paru chez Arthage en 2025, est en vente à la librairie du Sanctuaire de Lourdes et dans toutes les librairies. À noter que le père Bonin prêchera une récollection ouverte à tous le week-end du 7-8 mars à la paroisse de Lourdes.
Et d'ores et déjà, vous pouvez vous connecter sur le site internet de la radio, radioprésence.com. Vous y retrouverez toutes les émissions que vous avez le plaisir d'écouter en ce moment. Dans quelques instants, eh bien, on fera un point sur l'actualité juste après Billy Joel, Honesty.
But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so need from you. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. When I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty, there's such a lot.
Présence dans la cité mariale 96.
Et très très bonne journée à l'écoute des programmes de présence. Il est 12h passé de 33 minutes à la pendule de présence. Très très bon appétit si vous êtes à table. Nous sommes en plein cœur du présence midi. Dans quelques instants, nous aurons la chronique solidaire de Anne Deslois. Elle aura à son micro deux invités qui nous parleront des équipes Saint-Vincent. Et puis nous aurons bien sûr l'auteur mis à l'honneur en ce vendredi par Catherine Albrecht, un auteur qui a visité nos belles Pyrénées. Il s'agira aujourd'hui de Joseph Perret. Voilà le programme qui nous attend pour la demi-heure à venir. Je vous propose de la débuter avec le journal de la mi-journée.
Bonjour. Nouveau blocage ferroviaire suite à l'éboulement survenu à proximité de la RN20. Depuis le 18 février, les trains ne circulent plus sur la ligne SNCF entre Foix et Ax-les-Thermes en Ariège, une portion située sur la ligne Toulouse-La Tour de Carole. À la suite d'un affaissement jugé plus important que prévu par SNCF Réseau, le réseau ferré subit de nouvelles perturbations qui pourraient bien couper la ligne pendant plusieurs mois. Pensez bien à anticiper vos trajets si vous souhaitez vous rendre dans les Pyrénées ou en Andorre dans les prochaines semaines. À noter que cette interruption intervient en même temps que les travaux sur la RN20. L'installation de la fibre se poursuit dans le Gers avec une augmentation de 1200 abonnements chaque mois. Hormis à proximité d'Aubier, la totalité du réseau est désormais achevée dans le département. Gers Fibre est le concessionnaire du réseau, où le syndicat mixte Gersois est actionnaire majoritaire. À ce titre, l'entreprise est chargée de l'exploitation et de la maintenance du réseau dans le cadre d'une délégation de service public et se doit, par exemple, de rétablir 90% du réseau fibre en moins de 10 jours en cas de panne. Gers Numérique propose également ses conseils aux propriétaires, gratuits pour le moment, pour prévoir les raccordements en amont des constructions ou pour les travaux sur les terrains privés. Du 7 au 14 mars, la clinique Saint-Exupéry et l'association de patients France-Rhin-Occitanie-Midi-Pyrénées organisent une campagne de dépistage gratuit des maladies rénales à Toulouse. Le rendez-vous est donné place Saint-Georges de 10h à 19h à l'occasion de la 10e édition du dispositif lors de la Semaine du Rhin. La maladie rénale touche 5,7 millions de Français. Une personne sur deux est malade sans le savoir, faute de diagnostic. Le dépistage est une démarche simple et sans rendez-vous. Un questionnaire, un test urinaire, une prise de tension et un échange avec les soignants. Et le tour est joué en à peine 15 minutes. Après une semaine ensoleillée, c'est une tempête de sable qui va survoler la Haute-Garonne jusqu'à ce soir. Porté par un flux du sud et des températures quasi printanières, un nouvel épisode de vent transportant du sable du Sahara touche la France cette semaine. Ce phénomène, désormais bien connu des Toulousains, a apporté des températures particulièrement douces pour une fin février, mais aussi des poussières venues donc du Sahara. Conséquence, le ciel pourrait prendre une teinte voilée, parfois légèrement jaunâtre, à Toulouse et plus largement en Occitanie dans la soirée. Spectaculaires, ces épisodes ne sont pas exceptionnels en fin d'hiver. Selon le service européen Copernicus, la hausse des températures en Méditerranée et la sécheresse persistante au Maghreb favorisent ces remontées de sable vers l'Europe.
Et merci à Lou Denneville de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse d'avoir assuré pour nous les informations tout au long de cette semaine. Il est temps pour nous de retrouver la chronique solidaire de Anne Deslois. Nous parlons aujourd'hui des équipes Saint-Vincent-de-Paul.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans notre chronique solidairement vôtre, nous allons parler de solidarité, bien sûr. Mais solidarité, engagement et proximité. Nous recevons Françoise Nouvellon. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Et Geneviève Batte-Labourie. Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Vous êtes toutes deux engagées aux équipes Saint-Vincent de Tarbes. Françoise, vous êtes la présidente. Geneviève, la secrétaire.
C'est exact.
Alors si je me souviens bien, vous travaillez beaucoup ensemble. C'est une coprésidence, hein, il y a beaucoup de, disons, de collaboration entre vous.
C'est exactement ça. Nous sommes un bureau aux relations étroites et des relations de réelle confiance.
En tout cas, merci d'être avec nous pour que nos auditeurs découvrent mieux ce que sont que les équipes Saint-Vincent. Bien sûr, nous verrons le fonctionnement, les activités. On va tout d'abord parler des origines. Quel est l'historique, d'une certaine façon, Françoise, des équipes Saint-Vincent ?
Alors, l'histoire des équipes Saint-Vincent, elle commence dans la région parisienne lors d'un dimanche en 1617. Au cours de son homélie, Vincent de Paul évoque la situation difficile d'une famille et invite les paroissiens à aider cette famille. C'est le début d'un élan qui va être à l'origine de la création de la confrérie de la charité, qui, au fil des siècles, va poursuivre cette œuvre et qui changera de nom il n'y a pas très longtemps, en 1971, en devenant Équipe Saint-Vincent.
Alors, Françoise, dites-nous, parce que moi, personnellement, souvent, j'ai confondu Équipe Saint-Vincent et Conférence Saint-Vincent de Paul. Qu'est-ce que c'est la différence ?
Alors, la différence, elle est dans le fait que Vincent de Paul a confié à des femmes une œuvre dans l'Église de France, ce qui était quand même assez novateur à l'époque. L'œuvre s'est poursuivie et au XIXe siècle, un jeune étudiant, Frédéric Ozana, s'est lui aussi aperçu qu'il y avait des besoins auprès des gens précaires. Et comme il était étudiant, avec d'autres étudiants, ils suivaient des conférences, ce qu'on appellerait des cours aujourd'hui, et ils ont décidé de créer une conférence, Saint-Vincent de Paul, qui serait des petits groupes qui iraient rencontrer des personnes en difficulté et apporter des solutions sociales aux besoins de ces personnes.
Et les équipes Saint-Vincent, alors elles sont constituées simplement de femmes ?
Alors, les équipes de Saint-Vincent, dans leur statut, sont des équipes entièrement féminines. Sauf la possibilité, depuis l'an passé, de modifier nos statuts et de permettre à des hommes d'adhérer, en ayant pour le moment un intitulé qui est celui d'adhérent et pas encore celui d'équipier, mais c'est une réflexion qui est en cours.
Alors, Geneviève, je me tourne vers vous pour vous demander simplement de nous dire les missions ou la mission des équipes Saint-Vincent de... On dit Saint-Vincent de Paul ou si on s'arrête équipe Saint-Vincent ?
Équipe Saint-Vincent.
Alors, quelle est leur mission ?
Alors, la mission des équipes, c'est d'agir avec tous ceux qui vivent des situations de souffrance, de difficultés matérielles, morales, psychologiques, et donc de leur venir en aide sans discrimination, quelle que soit la couleur de pensée,
la religion,
sans discrimination. Ainsi, au relais, par exemple, pour les cadeaux de Noël que fait l'aumônerie, ils sont distribués à tous les détenus. Il n'y a aucune discrimination.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, vous êtes donc équipière.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a rejoint au fond de vous quand vous avez justement rejoint les équipes Saint-Vincent ? Qu'est-ce qui vous avait touché le plus, Geneviève, pour venir dans cette association, donner de votre temps ?
Eh bien, c'est un engagement amical, en fait. Je quittais une présence auprès des frères Prémontrés et je cherchais à m'engager ailleurs. Et une amie qui était aumônière de la prison, de la maison d'arrêt de Tarbes, m'a invitée à une soirée où on présentait la justice restauratrice. Au cours de cette soirée, j'ai rencontré Jeanne Péguini, responsable du relais, qui m'a présenté le relais. Je suis arrivée par le relais, puis j'ai été attirée amicalement par les autres équipières.
Voilà.
Et comme il manquait une secrétaire dans le nouveau bureau, je me suis laissée...
Vous avez répondu présente. Voilà. Françoise, pouvez-vous nous parler de la structure ? Parce que, si j'ai bien compris, vous êtes constituée en association de solidarité, en quelque sorte. Mais quelle est la structure ? Est-ce qu'il y a une structure nationale, régionale ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors, nous, les équipes Saint-Vincent de Tarbes, nous sommes une association loi 1901, avec toutes les obligations juridiques qui y sont attachées, et donc l'obligation d'effectuer une assemblée générale annuelle. Et en ce qui concerne, par exemple, les membres du bureau, nous sommes élus pour 3 ans, et uniquement pour 3 ans.
D'accord. C'est pas renouvelable.
Alors, ça peut être renouvelable si dans l'équipe, il n'y a pas d'autres possibilités.
Voilà.
Mais comme cette association, elle est aussi adhérente de la Fédération nationale des équipes Saint-Vincent, la fédération souhaite qu'il y ait le plus de renouvellement possible.
Oui. Et donc, avec les liens avec la fédération, c'est aussi des temps de formation. Est-ce qu'il y a une aide particulière entre vous, votre association, et la fédération, et les autres associations qui peuvent exister au niveau national ?
Bien sûr. Alors, nous avons des liens amicaux et étroits avec la fédération nationale. En ce sens que, à Tarbes, par exemple, le local dont nous disposons, rue de Ville, est un local qui appartient à la Fédération nationale. Donc nous pouvons compter sur son appui.
Là, il y a même une aide matérielle.
Exactement. Donc nous pouvons compter sur son appui, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau financier, que ce soit sur les formations, puisque par exemple, les 3 membres de bureau étions à Paris jeudi dernier pour assister à une journée de formation pour mieux connaître le mouvement Équipe Saint-Vincent.
Alors Geneviève, au niveau de la spiritualité qui anime votre engagement, l'engagement des équipes Saint-Vincent, bien sûr, je suppose que c'est lié à la spiritualité de Saint-Vincent de Paul.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et la spiritualité de Saint-Vincent de Paul nous conduit à ce que notre mouvement soit fidèle à sa spiritualité qui est basée sur Jésus-Christ, qu'il nous donne comme modèle d'amour, de compassion, de patience, d'accueil, et aussi de la Vierge Marie, qu'il nous donne comme modèle d'humilité, de simplicité, dans le service. Ne jamais oublier qu'on doit s'effacer devant le service. Il n'est pas pour nous, ce n'est pas une affaire d'ego. Hein, on doit faire comme la Vierge, discrètement, mais très efficacement.
On est vraiment au cœur du message de l'Évangile.
Tout à fait, c'est la mission aussi. Justement, à travers les actions de solidarité auprès des plus précaires, il s'agit d'apporter aussi le message de la bonne nouvelle, mission d'Église.
Alors, Françoise, vos équipes Saint-Vincent font partie du pôle diaconie du diocèse. Le lien, justement, avec Monseigneur Mika, avec le diocèse de Tarbes-Lourdes, quel est-il ?
Alors, ce lien, il s'est constitué sur un besoin que nous avons. Chaque mois, toutes les équipières se réunissent et nous avons toujours une première demi-heure qui est une demi-heure d'un temps spirituel. Nous avons eu jusqu'au mois de juin le soutien et la présence de l'abbé Chevalier. Et son départ nous a obligés à trouver un autre soutien spirituel. Et là, le contact a été pris avec la communauté apostolique de Jérusalem. Et nous nous sommes accordés sur le fait que, par trimestre, alternativement, trois religieuses viennent animer la première demi-heure. Et ensuite, nous pouvons passer à nos activités. Mais ce temps spirituel, il est important parce qu'il nous rappelle le sens de nos missions. Et il nous permet aussi de relire des moments, de relire des situations à l'aide de l'Évangile. Mmh. Et nous sommes aussi aidés dans ce temps par la revue que produit le National et qui nous fournit chaque mois un texte qui peut être de Vincent de Paul, mais qui peut être un texte de l'Évangile ou un extrait d'une lettre de Saint Paul que nous lisons, sur laquelle nous réfléchissons et sur laquelle les unes et les autres sont invités à donner un éclairage, une compréhension personnelle.
Merci Françoise et merci Geneviève pour cet échange. Nous le poursuivrons la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour découvrir d'autres aspects de votre engagement au sein des équipes Saint-Vincent. Nous parlerons entre autres dans le détail de toutes les activités que vous proposons. Alors à très bientôt.
пугался и фига мазнит по кавану.
À Bagnères-de-Bigorre, 88.9.
Du Pays basque au rivage de la Méditerranée, les Pyrénées ont inspiré quantité d'écrivains célèbres. Ces monstres sacrés de la littérature évoquent avec talent les panoramas d'exception, leurs souvenirs d'enfance, leurs aventures dans les fameux sites pyrénéens. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Joseph Peyret. Joseph Peyret est un écrivain, journaliste et conférencier, né de parents instituteurs à Heidi, au nord-est du Béarn. Brillant élève au lycée de Pau, il est boursier au lycée Henri IV à Paris, où l'un de ses professeurs, le philosophe Alain, lui prédit une grande carrière littéraire. Peyret, vous avez une belle plume et vous saurez vous en servir. L'avenir va confirmer cette prédiction puisque Joseph Peyret, un temps avocat, puis journaliste et conférencier, sera lauréat de plusieurs prix littéraires, dont le prix de la Renaissance en 1931 pour L'Escadron Blanc, le Goncourt en 1935 avec Sang et Lumière. Profondément attaché à son terroir natal et enraciné dans son canton de Garlin, où le collège porte son nom, il a, paradoxalement, situé l'action de beaucoup de ses romans dans des horizons exotiques, les sables du Sahara, les sommets des Alpes, du Nevada et de l'Himalaya, et l'Espagne, surtout, où il a vécu étudiant, puis a été grand reporter durant les événements tragiques de la guerre civile de 36-39 qui lui a inspiré de somptueux romans. Mais c'est toujours vers son Béarn de cœur et de raison qu'il revient chaque été se replonger dans les souvenirs d'une enfance heureuse qu'il évoque avec nostalgie dans son essai de géographie personnelle « De mon Béarn à la mer Basque » prix Fabien Artigue 1952. Un livre culte pour les vieux Béarnais qui y retrouvent la vie d'autrefois et leur attachement viscéral aux racines. Je voudrais qu'on me prie pour ce que je suis, un homme de ma terre, d'autant plus attaché à elle que j'en goûte mieux avec l'âge qui passe, l'éternité, l'asile, la maternelle douceur. Une résurrection pour les plus jeunes, peut-être. Lorsque nous parvenions sur la crête, un air plus vif qui annonçait l'océan nous frappait au visage. Je pressentais alors le goût, l'appel du pays inconnu qui était pourtant le mien et qui succéderait un jour à l'univers fermé de mon village. Le vent, d'ailleurs, variait suivant les jours. Après l'odeur de l'océan ou de la piñada landaise, il nous portait celle de la montagne et de l'Espagne, toute proche. Sans doute battait-il la crête pour appeler au timide village tapis à son abri dans ses vergers et ses vignes la présence des espaces et ainsi tenter ses esprits voyageurs. Mais aux yeux de nos gens, il ne signifiait que la pluie ou la menace de la grêle, dont le grondement et les étendues noires déferlaient toujours du couchant. « Tu vois, notre Béarn, me disait mon père, renonçant à cette fois à l'appellation scolaire de Basse-Pyrénées pour le nom de province qui parlait à son propre cœur, tu le vois avec sa montagne ?» Et là-bas, plus loin, beaucoup plus loin que la dernière crête dans la direction du pin parasol de Duce, c'était l'océan. J'entendais alors le bruit de vagues que faisait lorsque j'appliquais à mon oreille le grand coquillage marin de la cheminée de ma chambre. Jamais les Pyrénées ne me paraissaient aussi proches ni aussi hautes qu'à l'automne. Leur ton mauve des soirs d'octobre, pour moi, reste lié à l'odeur des chais, des ceps sur la lande, au roulement des chars de vendange, au cri des oies auxquels répondait, du haut des nuages voyageurs, celui des oies sauvages. Surprise par la montée rapide de la nuit. Pour le bon écolier que j'étais, ces Pyrénées avaient nom familier. Pic du Midi de Bigorre, à peu près notre méridien. pic du Midi d'Ossau, pic d'Agny, encore Béarnais, pic d'Ory, déjà basque. Seul m'échappait à l'extrême ouest, bien plus loin que le point où la chaîne mourait, une montagne bleue, il surgit des mers de l'horizon, et qui n'apparaissait que certains soirs miraculeux, à la faveur de je ne savais quelle lumière. Elle reste pour moi l'île du terme, celle que j'aborderai un jour, et je ne pourrai jamais la nommer. Mais déjà portée par le mouvement éperdu qui me prenait à la tombée du soir, je me jurais d'aller à la rencontre de ces pays secrets et de cet océan, lorsque j'aurai quitté ma frange ronde, mon tablier sans tache d'enfant sage. À travers les mots, le regard inspiré par nos belles Pyrénées, nous avons pu apprécier le talent de Joseph Peyret. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles des Pyrénées », inspirant tous mes récits.
Happy talk, keep talking, happy talk. Talk about things you'd like to do. You've gotta have a dream. If you don't have a dream, how you gonna have a dream come true? Talk about a moon floating in the sky, looking like a lily on a lake. Talk about a bird learning how to fly, making all the music she can make. Keep talking, happy talk. Talk about things you'd like to do. You've gotta have a dream. If you don't have a dream, how you gonna have a dream come true?
Le journal.
Le journal.
Les talibans affirment vouloir le dialogue pour résoudre le conflit avec le